Bonjour, ici Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis ravi aujourd'hui de parler avec
Perrine Mathieu.
Et on est ici à Dallas. On est tous les deux francophones, mais d'origine très différente. Et on s'est retrouvés parce qu'on a un intérêt commun dans l'aérospatial. Donc Perrine, peut-être tu peux nous expliquer un peu ton parcours.
Alors, je suis design engineer.
Oui.
mais j'ai eu un parcours assez différent, enfin assez varié. J'ai commencé mes études en physique. J'ai fait une licence en physique à McGill, au Canada. Et j'ai poursuivi avec un master en aérospatiale, en mécanique orbitale. Et j'ai fini mes études il y a un peu plus d'un an. Et maintenant, je travaille comme design engineer en aéronautique. Et je travaille sur les structures d'avions.
Et l'entreprise pour laquelle tu travailles ?
Elle s'appelle Triumph Aerostructures, ouais. Vought Aircraft.
Et tu vas au Brésil la semaine prochaine, pourquoi ?
Ah, j'en reviens d'ailleurs,
ouais.
je viens de revenir du Brésil le week-end dernier. Mon entreprise conçoit des structures d'avions pour l'entreprise brésilienne Embraer, qui fait des jets régionaux. Et donc on commence un nouveau projet sur un nouvel avion. Et mon entreprise m'a envoyé pour faire liaison avec Embraer au siège de Embraer près de Sao Paulo, à San José dos Campos.
Très bien. Donc, moi aussi, j'ai une licence en physique. Alors, moi, j'ai commencé plutôt sur l'optique. Donc, j'ai fait mon travail en licence et après en doctorat sur la conception de télescopes embarqués sur des satellites, donc aussi dans le spatial. Mais en discutant avant de commencer ce podcast, j'ai été frappé que ton parcours est un peu un random walk, hasard et nécessité. Tu as travaillé sur des CubeSats, par exemple?
Oui, pendant mes études à UT Austin, j'ai fait mon master là-bas à UT Austin en aérospatiale.
Oui.
Et j'ai travaillé dans un laboratoire qui s'appelle le Texas Spacecraft Laboratory. Et j'ai travaillé sur des CubeSats. Le laboratoire, sa mission, c'était de créer et envoyer des CubeSats dans l'espace en partenariat, par exemple, avec JPL. Et le dernier CubeSat qu'on allait envoyer était sur la fusée Antares qui a explosé le semestre dernier, l'an dernier. Donc voilà.
Donc là, en effet, il y a une connexion parce que dans une de mes activités dans le spatial, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui voulaient faire des projets spatiaux, dont des CubeSats. Donc en effet, il y a un groupe d'artistes mexicains en ce moment qui sont en train de construire 3 CubeSats. Et c'est intéressant que ces moyens deviennent accessibles quand même à des petites équipes, c'est la haute technologie, mais on est dans le maker community presque.
Oui, non, c'est vrai. Dans le laboratoire dans lequel je travaillais, il y avait beaucoup de... C'était la majorité des gens qui travaillaient sur le CubeSat, c'était des étudiants, même des étudiants en licence qui étaient dans leur deuxième, troisième année et qui travaillaient ensemble pour construire le CubeSat, le tester avant de l'envoyer dans l'espace. Donc ouais, c'est beaucoup plus accessible parce qu'un CubeSat, c'est beaucoup moins cher qu'un satellite commun et il peut être envoyé sur une fusée et accompagner un satellite qui est plus gros et ça prend moins d'espace, c'est plus léger et c'est moins cher à envoyer.
En tout cas, pour moi, un de mes sujets d'intérêt, c'est l'appropriation de ces moyens techniques qui sont normalement cloisonnés dans des milieux très spécialisés et en effet de les rendre accessibles à des gens dans d'autres métiers comme les artistes qui peuvent aussi les utiliser. Alors, tu as aussi travaillé parce que tu as de la famille ici à Dallas, c'est ça ?
Oui, c'est pour ça. Je suis française d'origine, mais ma famille a déménagé au Texas il y a, je pense, en 2002. Et donc,
tu as travaillé dans... Il y a un labo ici qui s'appelle le NCERL, et tu as travaillé dans un projet de material science. C'était quoi ?
C'était... Quand je faisais mes études en physique, ce qui m'intéressait, c'était la nanotechnologie. Et j'ai visité le laboratoire de NCERL quand j'étais au lycée. Et donc, pendant les étés où je revenais voir ma famille, j'allais travailler au NCERL en Material Science. Et j'ai travaillé sur un projet de déposition de Chemical Vapor Deposition, ça s'appelle, d'un gaz qui s'appelle le Dicylan sur des wafers de silicone, de silicium, et j'étudiais comment les structures se formaient sur la surface avec un FTIR, ça s'appelle un Fourier Transform Infrared Spectrometer. Et donc, c'était ma recherche pendant les deux étés.
Donc, en effet, si je réfléchis à mon parcours professionnel à moi aussi, ce n'est pas une ligne droite. Hein, et souvent, je crois qu'on donne l'impression que les carrières techniques sont très... on est sur un pipeline.
Oui, c'est sûr. Souvent, ils disent « Ah, je voulais être ingénieur depuis que j'étais tout petit. Et tout ce que j'ai fait, c'était pour devenir ingénieur, je ne sais pas, quelque chose. »
Et tu as même fait, en licence, tu as dit un minor en littérature hispanique.
Oui, voilà. Donc, pendant ma licence en physique, après un an de juste faire des cours de maths et de programmation et de physique, j'avais ce qui me manquait, c'était les arts, la littérature et les langues, ce qui a toujours été quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, au bout d'un an, j'ai décidé, je vais faire un mineur en littérature hispanique et parce que j'avais besoin d'autre chose dans ma vie que juste les sciences.
Et là, on entre dans un sujet dont on a beaucoup parlé dans un autre podcast, The Creative Disturbance, avec un chercheur qui s'appelle Robert Root Bernstein. C'est qu'en effet, il analysait les carrières des ingénieurs et scientifiques les plus réussis du siècle. Prix Nobel, membre de l'Académie, etc. Et dans cette population de scientifiques et d'ingénieurs qui ont très réussi dans leur carrière, il a trouvé que, hors proportion par rapport aux autres scientifiques ou ingénieurs, ils avaient des intérêts annexes qui étaient très importants pour leur parcours professionnel. Et en effet, enfin, dans mon cas, c'est parce que mon père, qui a commencé en tant qu'ingénieur, est devenu artiste. Donc, j'ai toujours eu cette confusion qu'on pouvait faire les deux en même temps. Mais c'est vrai que dans toute la question de comment on trouve des réponses à des problèmes, on a besoin d'alimenter sa réflexion avec d'autres choses que the narrow disciplinary focus. Et souvent, nos universités essaient de fermer plutôt que d'ouvrir ces connexions.
Non, c'est vrai parce que... Mais souvent, les universités, elles essayent aussi de montrer à leurs étudiants des différentes matières parce que, par exemple, dans les universités américaines, souvent, la première année, les étudiants doivent prendre des core courses. Donc, ils doivent prendre un cours de langue, d'histoire, d'art, etc. Mais quand j'ai commencé mes études à McGill, ils m'ont donné une année de crédit. Donc, j'ai fait ma licence en 3 ans au lieu de 4. Ce qui veut dire que j'ai sauté cette année où je pouvais essayer des différentes matières, etc. J'ai commencé directement sur mon major en physique.
Oui.
Donc, mais visiblement, ça m'a manqué. Donc, j'ai fait des langues plus tard et de la littérature. Donc.
Non, et c'est vrai que dans son parcours professionnel, c'est un mélange de ses désirs, de ses volontés, de ses intérêts, des opportunités qui s'ouvrent. Et j'ai un peu l'impression que tu as saisi les opportunités.
Oui, voilà, c'est ça.
L'autre contexte qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'enregistrer ce podcast parce que sur Creative Disturbance, pour la Journée internationale de la femme, on va afficher un nombre de podcasts. Et dans ta carrière, enfin, tu as fait la remarque que dans les équipes où tu travailles, tu es souvent une femme parmi 20 hommes.
Oui, c'est souvent ça. Mais en fait, dans mon équipe, donc dans mon entreprise, c'est le cas. C'est à peu près une femme pour 20 hommes, chez les ingénieurs, bien sûr. Mais dans mon équipe en particulier, c'est très rare, et mes collègues me le disent, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont dans cette industrie. En fait, dans mon équipe, on est 3 femmes et on est 15 en tout, quelque chose comme ça. Donc, il y a un ratio beaucoup plus élevé que d'habitude. Et je trouve qu'en général, ça... En fait, mon équipe est une des équipes qui... c'est l'équipe qui fonctionne le mieux dans mon entreprise.
Ouais.
Et je pense que ça a peut-être à voir avec le fait que les femmes, on collabore plus. Souvent, c'est entre les hommes, ça peut devenir très compétitif. Mais Je pense qu'il y a, peut-être une raison que on
En effet, il y a toute une littérature sur collaborative teams et en effet, les équipes très homogènes ont tendance à ne pas être très innovantes. Donc déjà, diversité d'âge, diversité de formation et hommes-femmes, ça fait partie d'un contexte qui permet peut-être de collaborer mieux.
Je le vois dans notre équipe, j'ai l'impression qu'on collabore plus, on travaille beaucoup mieux ensemble que les autres équipes qui sont majoritairement que des hommes,
oui.
Que dans la même entreprise. Donc.
Est-ce que tu as des suivis des formations en collaboration, en management
ou... Des suivis de comment ça?
Des formations. Parce qu'une des choses qui m'intéresse en ce moment, et il faut que je travaille dessus, c'est que tout le monde parle beaucoup de l'intérêt de collaboration efficace.
Mm-hmm.
Alors, quand j'étais à la NASA, j'ai eu des formations, mais c'était très spécialisé sur comment les scientifiques et les ingénieurs collaborent ensemble. Donc, toute la méthodologie de spécification. Mais dès qu'on est dans des collaborations qui sont un peu plus larges, je crois que le problème est posé autrement. Et je crois qu'il y a un créneau pour créer des formations pour l'art de la collaboration.
Non, je n'ai pas eu de formation particulière.
Ouais,
non,
ouais, ouais, non, mais c'est étrange hein, parce que surtout dans les équipes techniques aujourd'hui, on est toujours en équipe de... Alors là dans le cadre de travail, c'est une quinzaine de personnes, tu m'as
voilà,
dit.
C'est ça, dans mon équipe. Ouais.
Sur le satellite où j'ai travaillé, à un certain moment, on était 200. Hein, donc, et là, en effet, ce n'est pas évident comment on collabore bien et comment chacun retrouve son compte dans la réussite du groupe.
C'est vrai.
Ouais, donc, c'est un problème intéressant. Donc, pour la journée internationale de la femme, est-ce que tu as des recommandations pour les jeunes filles qui pensent à des carrières techniques?
Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de, oui, beaucoup d'universités qui essaient de pousser les jeunes filles à suivre des carrières techniques ou ingénieurs. En général, des fois, ça leur fait peur parce qu'il y a des préconceptions que les sciences, c'est pour ou les métiers d'ingénieur, c'est plutôt pour les hommes, et les femmes plutôt des choses plus littéraires, etc. Mais non, je pense que faut pousser les jeunes, les filles ou à suivre ce qui les intéresse, même si c'est pas ce que tout le monde fait. Enfin.
Et c'est pas évident parce que ça dépend aussi de son contexte familial. Il faut que les parents soutiennent aussi les intérêts de leurs enfants et des fois on est poussé dans d'autres directions, etc. Bon, écoute, Perrine, je suis ravi de faire ta connaissance et de démarrer une conversation.
De même.
Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux laisser?
Non, c'est tout.
Bon, donc, hasard et nécessité dans Design Engineering. Merci.
Merci.